États-Unis, Détroit, une grande ville ouvrière, dépecée par l'avidité sans borne des capitalistes. Le texte suivant est adapté d'un article daté du 29 janvier 2013, publié dans le numéro 77 de la revue Class Struggle du groupe trotskiste américain Spark. L'article de Class Struggle explique comment la ville de Détroit, grande métropole ouvrière et cœur de l'industrie automobile américaine, en est arrivée à se dépeupler et à être littéralement dépecée dans l'intérêt des capitalistes industriels et financiers. Depuis, la municipalité de Détroit a été dotée par l'État du Michigan d'un gestionnaire financier de crise, alors que son système scolaire était déjà sous le coup d'une telle mesure depuis 2009. Aux États-Unis, les gouverneurs des États peuvent ainsi déclencher une procédure d'urgence qui aboutit à la mise sous tutelle d'une ville, d'un comté ou d'un service public en les déclarant en état, entre guillemets, de crise financière. Cette procédure permet la nomination, entre guillemets, d'un gestionnaire financier de crise avec des pouvoirs étendus lui permettant, sous prétexte de résorber une situation de faillite, de contourner les élus, de s'affranchir de certains règlements et de s'en prendre directement aux travailleurs. Nommé à compter du 25 mars pour une durée de 18 mois par le gouverneur républicain Snyder, l'avocat d'affaires doté de tels pouvoirs a immédiatement déclaré vouloir privatiser les biens de la ville et baisser les retraites de ses employés. Sans fioritures inutiles, il a ajouté, ouvrez les guillemets, « Dans ce type de travail, on est une sorte de croque-mort qui sonne à la porte. Je suis rarement le bienvenu. » Fermez les guillemets. Ce personnage avait notamment aidé le Trust Automobile Chrysler à se déclarer en faillite en 2009 pour imposer un contrat collectif draconien aux salariés du constructeur, ce qui avait tellement profité aux patrons qu'ils avaient aussitôt renoué avec les profits. Entre guillemets, à peine plus de 700 000 personnes vivent dans une ville planifiée à l'origine pour 2 millions d'habitants. Cette assertion revient comme un refrain dans tout le entre guillemets, plan stratégique, un document publié pour entre guillemets, recréer la ville de Détroit, la ville la plus importante de l'État du Michigan. Mise en avant par le maire démocrate de Détroit, l'ancien homme d'affaires Dave Bing, entre guillemets, le plan stratégique, explique que, puisque la population n'est plus aussi entre guillemets, dense qu'avant, le système centralisé d'infrastructures, les transports, la fourniture d'eau, les égouts et l'éclairage public est très inefficace. Le maire veut que des gens soient entre guillemets, encouragés à déménager vers d'autres secteurs et que les infrastructures municipales soient minimes dans certaines zones pour pousser les gens à partir. Il est déjà prévu que les secteurs que le maire veut libérer soient affectés à un certain type de développement. Deux zones seront dévolues au libre-change pour, entre guillemets, le commerce international et l'industrie. Deux autres seront affectées à l'agriculture industrielle. Et trois autres encore seront transformées en quartiers résidentiels pour la petite bourgeoisie fortunée. Tout ce que la ville compte de spéculateurs a déjà mis la main sur une bonne partie de ses terrains en espérant en retirer des profits substantiels. Sous le vernis de la planification urbaine moderne, le entre guillemets, plan stratégique est à peine plus qu'une justification pour dégrader encore, éliminer et privatiser des pans entiers des services publics dans les quartiers ouvriers et pauvres de la ville. Ce plan n'est pas nouveau. C'est juste la continuation de décennies d'appauvrissement des travailleurs de Détroit au bénéfice du capital, en utilisant les finances municipales pour enrichir encore la bourgeoisie et les banques. L'anarchie capitaliste engendre un urbanisme inhumain. Prétendre que cette ville a été, entre guillemets, planifiée pour 2 millions d'habitants est une absurdité historique. La ville de Détroit n'a certainement pas été planifiée. Pas plus que les autres grandes villes, dont le développement est conditionné par les à-coups de la production industrielle en régime capitaliste. Détroit a grossi complètement anarchiquement, atteignant en 1927 sa surface actuelle. Le nombre d'habitants a atteint son maximum à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après que l'explosion de la production d'armement eut attiré des gens du Sud, semaine après semaine, pendant toute la durée de la guerre. La ville comptait alors 1,8 million de personnes. Avec ses infrastructures déjà dépassées et un manque de logement, la ville craquait aux coutures. On mettait des bungalows de guerre dans les espaces verts. Les transports n'étaient plus adaptés. la fourniture d'eau et d'électricité était parfois sporadique. Suite à l'émeute raciale violente de 1943, au cours de laquelle 34 personnes perdirent la vie, la Commission fédérale d'investigation pointa le surpeuplement comme une des causes majeures de ces sanglantes batailles de rue entre blancs et noirs. La création de friches industrielles. Il est vrai qu'aujourd'hui, la ville compte beaucoup de terrains libres. En tout, 50 km² si on en croit les chiffres officiels. Ainsi, Détroit compterait, avec sa surface totale de 360 km², plus de trois fois celle de Paris, 14% de terrains libres. Et alors ? Rome, par exemple, a bien plus de terrains non bâtis, 40%, en fait des espaces ouverts et sans vente. Mais à Rome, ce sont des parcs, des jardins, des monuments, des places, etc. Les surfaces libres à Détroit, elles, ont été abandonnées intentionnellement, conséquence du genre de entre guillemets, planification capitaliste, en fait du pillage, que le plan stratégique reprend. La plupart de ces terrains ont été libérés par les transferts de production, étalés sur des décennies, ordonnés par les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants vers des usines neuves plus modernes, laissant derrière eux des carcasses de bâtiments abandonnés, des sols pollués, des friches contaminées. Leurs usines ont été déplacées d'un bout à l'autre de la ville de Détroit, comme certaines de General Motors, GM, et de Chrysler. Dans d'autres cas, les entreprises ont déménagé la production en banlieue, voire dans d'autres États, comme Chrysler l'a fait en mettant en concurrence différentes villes prêtes à payer pour accueillir une nouvelle usine ou en garder une déjà existante. La recherche continuelle d'amélioration de la productivité a réduit le nombre d'usines de chaque constructeur. Chrysler a ainsi éliminé toutes les usines d'emboutissage qui existaient à Détroit pour concentrer la production dans une seule usine ailleurs dans le Michigan, à Warren. Les gens ne sont pas partis, ils ont été poussés dehors. Les terrains utilisés pour construire de nouvelles usines étaient souvent habités. Ainsi furent détruits un quartier constituant le cœur de la communauté noire au début des années 1950 et un quartier abritant la communauté polonaise au début des années 1980. Dans les années 1990, la municipalité s'empara de l'eau située en bordure du centre-ville, évacuant des gens, des magasins, des bureaux, de petits ateliers, des bars de quartier. À la place, on construisit 3 casinos, 2 stades et, entre guillemets, un quartier de loisirs. Des logements sociaux furent supprimés pour qu'à la place des pauvres, on puisse faire venir des gens plus riches à qui on vendait des copropriétés de standing. La ville ferma ainsi des tours, abritant des logements en relativement bon état et les donna à des promoteurs. Le contrôle d'une autre zone proche du centre-ville a été pris par la municipalité, évacuant les habitants pour servir de tampon, de façon à protéger le centre rénové des pauvres qui habitaient là auparavant. Dans d'autres zones, la ville n'a pas saisi les terrains, mais a tout simplement réduit les services publics, laissant de fait peu de choix aux habitants, sinon celui de partir. La catastrophe de la crise immobilière. Puis vint l'arnaque des subprimes, affectant non seulement les quartiers pauvres, mais aussi ceux qu'on avait l'habitude de considérer comme des quartiers ouvriers stables. Vers la fin des années 1990, les banquiers ont jeté leur dévolu sur ces quartiers, poussant ceux qui avaient des hypothèques à les refinancer avec des promesses de taux d'intérêt bas, et ceux qui n'en avaient pas à en prendre sur la maison qu'ils possédaient jusqu'alors en totalité. En fait, les gens sont tombés dans un traquenard avec des hypothèques qui leur ont vite explosé à la figure. Près de 100 000 personnes, des familles entières, des retraités, ont été, entre guillemets, déplacées ainsi, perdant leur logement, victimes des banques. Les spéculateurs se sont alors rués pour mettre la main sur les lots dans le but d'en tirer du profit à l'avenir, sans rien entretenir, sans même protéger les immeubles du vandalisme. De petits, entre guillemets, entrepreneurs ont alors fait moisson de cuivre en emportant les fils électriques et la tuyauterie, les montants en aluminium, les gouttières et même les portes et fenêtres. Pratiquement du jour au lendemain, des quartiers jusqu'alors peuplés et bien tenus se sont mis à ressembler à des ruines de guerre. Où sont allés tous ces habitants ? Certains ont déménagé en banlieue. D'autres se sont entassés avec de la famille ou bien vivent dans des foyers ou à la rue. Un nombre indéterminé squatte les immeubles vacants. les autorités se sont rendues compte elles-mêmes de l'ampleur du nombre de squatteurs quand elles ont pris, en janvier dernier, possession de 7 900 maisons qui n'avaient pas trouvé preneur aux enchères en 2012. Un quart, soit 2 000, étaient occupés, soit par les anciens propriétaires victimes de saisie, soit par les locataires refusant de déménager lorsque le logement avait changé de propriétaire, soit par d'autres squatteurs. Si on applique cette proportion au reste des 150 000 lots vacants à travers la ville, il se pourrait que 30 000 à 40 000 soient aussi occupés. Par combien de personnes ? Nul ne le sait. Ces habitants n'apparaissent certainement pas dans les recensements officiels. Quel que soit leur nombre, le maire, qui se lamente pourtant que la ville a trop peu d'habitants, n'a clairement aucune intention de les inviter à rester. Les dirigeants de l'État et de la ville crucifient Détroit. Depuis 3 décennies, la ville elle-même abandonne des bâtiments et des terrains. Elle n'a pas seulement fermé des logements sociaux, mais aussi des centres de loisirs, des jardins, des piscines, des mairies de quartier, des commissariats, des casernes de pompiers, des bibliothèques et des dispensaires médicaux. Ainsi, à l'exception de quelques bureaux du département de santé publique, qui est aussi sur le départ puisque la ville est en train de confier son travail et ses archives à une entreprise privée, les 7 étages de l'hôpital public Hermann Kieffer sont vides. En 1980, il y avait 39 centres de loisirs à Détroit. Aujourd'hui, il en reste seulement 14. Il y avait 11 mairies de quartier qui permettaient aux habitants d'effectuer les formalités administratives plus facilement. Il en restait 5 en 2011 et elles vont fermer cette année. Il y avait 16 commissariats et 49 postes de police locaux où les gens pouvaient aller pour déclarer un sinistre par exemple. Il n'y a plus aujourd'hui ni commissariat ni postes locaux. Il n'existe que 4 divisions de police. Tout cela se traduit par des immeubles et des terrains vides. L'État du Michigan porte aussi sa part de responsabilité dans le désastre. Il a fermé des hôpitaux psychiatriques, des centres d'aide sociale, des services d'accueil de chômeurs. À présent, les chômeurs n'ont plus qu'une seule agence à leur disposition pour toute la ville. Des bureaux délivrant les permis de conduire et les papiers des véhicules, ainsi que les cartes d'électeur, ont fermé. Il n'en reste que 6. Le nombre des bureaux délivrant l'aide sociale et les bons alimentaires est passé de 21 au début des années 1990 à 7 aujourd'hui. Cela se traduit par des queues plus longues et des attentes qui durent toute la journée, se terminant parfois par un « revenez demain ». Il n'est pas surprenant que les agressions de travailleurs sociaux augmentent. Les employés de ces agences, au format toujours plus réduit, sont les premiers touchés par la colère des gens contre une ville et un État qui les méprisent tant. Dans le mouvement général de création d'écoles privées, Chartered Schools, l'administration scolaire de la ville, puis le directeur financier d'urgence qui en a pris le contrôle, ont fermé des écoles avec l'objectif de forcer les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles privées qui ont fleuri au même moment. En seulement 5 ans, de 2006 à 2011, 124 écoles publiques ont été fermées. Des douzaines d'autres ont subi le même sort en 2012. Certains bâtiments scolaires ont été immédiatement réoccupés par des écoles privées, d'autres par de petites entreprises et même par des églises. Mais beaucoup sont toujours vacants, la plupart couverts de graffitis. Une manière pour les jeunes de faire un pied de nez à une municipalité qui les ignore depuis longtemps. Les immeubles se vident, les services municipaux s'étiolent et les emplois disparaissent. Les bibliothèques municipales de quartier appartiennent presque au passé. Et celles qui restent sont fermées 2 à 4 jours par semaine. Les services publics de soins ont disparu, remplacés, d'après les autorités, par des cliniques privées. La plupart des jardins publics sont fermés et dans ceux qui restent ouverts, on ne tondra les pelouses au mieux que 4 fois cette année. Les centres de loisirs ne sont pas mieux lotis. En 2001, la ville y employait 665 personnes. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 87. En fin d'après-midi et en début de soirée, il n'y a souvent plus qu'un seul travailleur pour tout un complexe, assurant le rôle d'entraîneur de basketball, d'employé de ménage, d'ouvrier d'entretien et d'agent de sécurité. Ayant déjà cédé nombre de ces centres à des églises, la ville se propose de transférer ceux qui restent au privé l'an prochain. Les fermetures de casernes de pompiers annoncent des catastrophes à venir. En 1999, il y avait 1742 pompiers. En 2012, il en restait seulement 1257. Et dans ce nombre, il faut inclure les personnels médicaux d'urgence. Ces services ne disposent plus que de 78 véhicules contre 238 en 2004. L'éclairage public est sporadique. D'après le plan stratégique, 40% des lampadaires fonctionnent. C'est peut-être vrai, mais seulement les bons jours. Certaines artères, même là où l'éclairage est en état, n'étaient déjà plus éclairées pendant une semaine ou deux. Mais à présent, cela peut durer des mois. Le nombre d'employés municipaux en charge de l'éclairage est passé de 331 en 1999 à 103 en 2012. Le service de bus est tellement irrégulier que le maire a récemment estimé qu'il était important pour lui de se vanter du fait que les bus allaient circuler toutes les 15 minutes sur les quatre lignes principales et durant la journée. Bien sûr, comme souvent avec ce type de promesse, les 15 minutes se transforment fréquemment en 30 et même 60 minutes entre chaque bus. Et depuis trois décennies, il ne s'est pratiquement pas passé une année sans qu'on annonce la fermeture d'une ligne ou une réduction d'horaire. Le nombre de chauffeurs et de mécaniciens d'entretien a diminué de 1815 en 1999 à 916 aujourd'hui. Les ordures sont ramassées seulement une fois par semaine, sauf lorsque les engins sont occupés à déneiger. Et les encombrants ne sont enlevés que deux fois par an. Le nombre d'employés municipaux affectés à ce service, qui dégagent aussi la neige en hiver et réparent la voirie en été, est passé de 1373 en 1999 à 625 en 2012. Le système des égouts est sous le coup d'une injonction du tribunal depuis 1977, car la ville n'a jamais résolu le problème des rejets dans la rivière trop près des adductions d'eau. Bien que la pollution de l'eau potable soit à des niveaux inacceptables, les travailleurs qui entretiennent la canalisation et les égouts sont passés de 2944 en 1999 à 1978 aujourd'hui. Au total, les 17 000 employés municipaux de 1999 n'étaient plus que 10 500 l'an dernier, et le maire a promis de licencier 2 000 autres travailleurs cette année. Les maires qui se sont succédés ont pris comme prétexte le déficit du budget et l'endettement de la ville, 14 milliards de dollars aujourd'hui, soit 10,85 milliards d'euros, pour justifier cette saignée dans les services municipaux. Ils se sont lamentés sur la diminution des emplois offrant de bons salaires et donc de bonnes rentrées fiscales, comme si c'était une calamité naturelle. Mais c'est le fruit de l'avidité des trusts de l'automobile qui ont supprimé tellement d'emplois qu'aujourd'hui plus de la moitié des adultes sont au chômage. Et cela dans la ville qui était la plus industrielle du pays jusqu'à la fin des années 1970. Les usines fournissaient alors les emplois les mieux payés de l'agglomération. La ville et l'État étaient aussi des employeurs importants, et travailler pour eux apparaissait comme une situation stable et durable. Les ouvriers de l'automobile n'ont certes jamais ramené à la maison des revenus comparables à ceux de la petite bourgeoisie, même si les bureaucrates syndicaux le prétendaient. Mais ces travailleurs n'étaient pas non plus, pas plus que ceux du secteur public, au bord de la misère, comme le sont tant de chômeurs actuellement. Une dette municipale creusée pour offrir des cadeaux au patronat. En réalité, la cause principale de la crise financière de Détroit est l'utilisation depuis longtemps de ses finances pour offrir des subsides de plus en plus importants à la bourgeoisie et des réductions d'impôts aux plus grosses entreprises du monde, à commencer par les constructeurs automobiles. Cette sollicitude des autorités pour la satisfaction des capitalistes a toujours été une caractéristique importante de l'économie capitaliste. Mais avec la plongée dans la crise au cours des années 1970 et son approfondissement dans les années 1980, elle a carrément vidé les caisses publiques au service de la bourgeoisie, à Détroit comme partout ailleurs. Si, à Détroit, ce processus est peut-être plus avancé qu'ailleurs, cela montre le sort que le capitalisme réserve à la classe ouvrière dans les autres grandes villes. Le montage financier autour de la construction d'une usine et General Motors, en 1980-81, est le parfait exemple de ce qui se pratique depuis des décennies. La ville a alors payé au moins 250 millions de dollars pour acheter le terrain, le nettoyer et y reconstruire un réseau routier. C'est la ville qui a détruit l'ancienne usine de 6 étages de Chrysler. Elle y a ajouté les voies de chemin de fer, le réseau d'égouts et de canalisation d'eau que réclamait GM. Et en plus, la municipalité et l'État ont fait cadeau à General Motors de la moitié de ses impôts sur cette usine pour une durée de 12 ans. Mais la ville n'avait pas les moyens financiers d'être aussi généreuse. Elle s'est donc endettée pour 100 millions de dollars sur 6 ans. Un prêt qu'elle n'a pas pu rembourser, se voyant obligée de restructurer sa dette sur 10 ans pour 154 millions de dollars. Par contre, pour les travailleurs, ce n'était pas des cadeaux, mais la note fiscale qui était présentée. La ville était alors celle qui exerçait la plus grosse pression fiscale sur les salaires dans tout l'État du Michigan. De son côté, Chrysler avait eu droit, dès le début des années 1970, à une exemption d'impôt foncier pour une usine de 4000 travailleurs. Or, 10 ans plus tard, ce bâtiment n'était plus utilisé que comme un entrepôt avec très peu d'employés. Mais l'exemption fut maintenue pendant encore des années jusqu'à ce que la ville achète le terrain à Chrysler qui n'en avait plus l'usage, et le lui revende en 1995 lorsque Chrysler voulut construire une nouvelle usine avec, bien sûr, une nouvelle exemption de taxes. Pour reconstruire une usine d'assemblage et une autre produisant les éléments vitrés, deux usines considérées comme vieillissantes dans les années 1980, Chrysler a obtenu des abattements sur 12 ans. Cela ne l'a pas empêché d'en fermer une en 2003. Mais il n'y a pas que les constructeurs automobiles qui ont bénéficié de cette manne publique. À la fin des années 1990, la ville a payé 50 millions de dollars pour acquérir les terrains et les immeubles qui ont servi à construire trois casinos. En 1999, la ville a donné un terrain qu'elle possédait depuis des décennies pour 1 dollar à Compuware, qui commercialise des logiciels informatiques, pour y construire son siège, avec en prime une exemption de taxes d'une valeur de 70 millions de dollars. En 2000, la ville a déboursé 189 millions de dollars pour acheter, nettoyer et viabiliser un lot convoité par la riche famille Illich, qui souhaitait y voir construire un stade pour l'équipe de baseball qu'elle possède. La ville a augmenté la taxe hôtelière et celle sur la location de voitures pour financer ce stade, d'autant plus qu'elle a offert sa garantie pour les deux tiers du montage financier. En 2001, l'équipementier automobile American Axle a bénéficié, pour son nouveau siège, d'un abattement fiscal de 500 000 dollars par an sur 12 ans. En 2002, la ville a financé à hauteur de 215 millions de dollars la construction d'un nouveau stade pour l'équipe de football américaine possédée par la famille Ford. En 2010, les assurances Blue Cross Blue Shield ont reçu 35 millions de dollars d'incitation financière pour déménager leur siège dans le nouveau quartier d'affaires. C'est ainsi que la dette de la ville a grimpé. 4,89 milliards de dollars en 2003, 8,6 milliards en 2009, 12,6 milliards en janvier 2012, pour atteindre 14 milliards aujourd'hui, en fait 20 milliards, intérêts inclus. L'État du Michigan procure lui aussi des cadeaux fiscaux aux entreprises pour un montant de 6,65 milliards de dollars chaque année. C'est autant d'argent qui ne va ni aux villes et comtés en difficulté, ni aux écoles également exsangues financièrement. Aujourd'hui, l'État du Michigan ne reverse à la ville de Détroit qu'un tiers des aides qu'il lui versait dans les années 1980. L'État fédéral, lui aussi, a réduit ses subventions à la ville. Les banques prennent aussi part au pillage. La dette grandissante de Détroit a été prise en main par certaines des banques les plus riches du monde. Elles ont prélevé leur écho sur chaque obligation municipale émise. Mais cela ne suffisait pas, et, lorsque la ville s'est endettée encore plus massivement, les banques lui ont fourgué des instruments financiers exotiques qui ont eu le même effet de boomerang sur ses finances que les subprimes ont eu sur ceux qui achetaient leur maison. Ainsi, en 2005, la ville a émis des obligations à taux fixe pour 1,6 milliard de dollars, prétendant financer ainsi les retraites de ses employés. La banque UBS Financial Services, qui organisait l'opération, proposa d'investir l'argent ainsi levé dans des placements à taux variables, ce qui était supposé ramener assez d'argent pour combler le déficit courant de 300 millions de dollars du budget municipal. il y eut des réticences au conseil municipal. Il a fallu la menace des agences de notation Fitch et Standard & Poor's de baisser la note de la ville si l'opération n'était pas réalisée et que le maire, de son côté, menace de licencier 2000 employés municipaux pour arracher un vote favorable. Au bout du compte, le maire supprima tout de même 1400 emplois et la ville perdit 107 millions de dollars par an. En 2009, incapable de rembourser les obligations, Détroit fut obligé de refinancer l'émission pour 2,9 milliards, sans compter les intérêts et les 400 millions de pénalités pour avoir fait défaut sur un paiement. En conséquence de quoi, les agences de notation ont tout de même baissé la note de la ville, renchérissant ainsi ses futurs emprunts. L'État du Michigan, en vertu de ses entre guillemets, « pouvoirs d'urgence », a alors forcé Détroit à se jeter dans les bras de US Bancorp, un autre requin de la finance, en faisant transiter par cette banque l'argent des aides de l'État ainsi que le produit de la taxe sur les casinos. US Bancorp agissait comme l'huissier d'UBS Financial Service pour recouvrer la dette de Détroit, en se servant au passage, bien évidemment. Il faut rappeler qu'UBS est une des banques actuellement visées par une enquête concernant la manipulation pendant des années d'un taux bancaire de base, le LIBOR. Or, c'était ce LIBOR, maintenu artificiellement bas par des tripatouillages, qui a servi de référence pour déterminer ce que Détroit obtiendrait pour ses placements. D'autres villes américaines ont été aussi victimes de l'arnaque. Rien qu'en 2010, 36 villes ou États ont perdu 5 milliards de dollars en « entre guillemets frais » pour avoir mis les pieds dans cette finance louche. La population de Détroit n'est pas la seule victime. Détroit a été pris dans le filet de banques prédatrices, frappées à la fois par des grandes entreprises voraces et par les appareils politiques qui contrôlent la ville, l'État et le gouvernement fédéral, tous au service du capital. Mais ce n'est pas la seule ville à subir ces fléaux. L'ancienne ville de la sidérurgie Pittsburgh, Pennsylvanie, dont la population est passée de 677 000 habitants en 1950 à seulement 306 000 en 2010, a été proche de la faillite à la fin des années 1990 et sa dette absorbe toujours un cinquième de son budget. En 2008, Valero, ville moyenne abritant 115 000 habitants dans la baie de San Francisco en Californie, a fait faillite. En 2011, ce sont plusieurs comtés entiers, un en Alabama et quatre en Californie, l'État le plus peuplé et économiquement le plus puissant du pays, qui ont fait banqueroute. En 2011 et 2012, une trentaine de villes ont aussi fait faillite, utilisant la banqueroute pour diminuer les salaires et les services publics, bien des fois en fermant totalement des services, y compris la police et les pompiers. En Californie, dans l'agglomération de Los Angeles, la municipalité de Maywood, avec ses 27 000 habitants, a été la première ville à licencier tous ses employés en 2010. Elle a tout mis en sous-traitance, sans même passer par la procédure de banqueroute. Toujours en Californie, 200 districts scolaires publics ont emprunté 2,8 milliards de dollars à des banques qui ont pris comme garantie les terrains sur lesquels les écoles sont bâties. Les banques ont poussé à emprunter des sommes colossales en expliquant que la valeur de l'immobilier ne pouvait que grimper et que les prêts seraient alors aisément remboursables 20 ans plus tard. Mais le krach de l'immobilier est passé par là et quand les emprunts viendront à échéance, il faudra rembourser 16,3 milliards de dollars. À la Nouvelle-Orléans, les ravages causés par le cyclone Katrina en 2005 ont été l'occasion de se débarrasser de toute une partie de la population pauvre et d'attirer davantage de gens aisés. L'occasion aussi de transférer d'un coup tout le système scolaire de la ville au privé et de fermer le grand hôpital public. Certains ont poussé le cynisme au point de déclarer que Katrina fut, entre guillemets, une chance pour la ville. Dans bien d'autres villes, en particulier Détroit, qui n'ont pas eu cette entre guillemets chance, ce sont la grande bourgeoisie et les autorités à son service qui vampirisent littéralement la ville. Devant la situation catastrophique de Détroit, le plan du maire était de s'en prendre encore davantage à la population, en réduisant encore les services publics, au point, par exemple, de ne remettre en état que 30% de l'éclairage public, puis de le vendre au privé, de même que la distribution de l'eau et d'autres services municipaux. Il n'y aurait plus que 300 employés municipaux, 300 autres seraient employés par des sous-traitants, alors qu'aujourd'hui, ce sont 2000 personnes qui travaillent pour la municipalité. En privant certains quartiers de tout service public, les autorités veulent obliger les habitants à partir pour que les promoteurs immobiliers puissent y construire des immeubles de standing ou que les entreprises puissent profiter d'une zone franche dans la ville. Malgré la volonté des autorités de Détroit de pressurer encore plus fortement la population ouvrière pour satisfaire tous les caprices des riches et pour payer leur énorme tribut aux banques, le gouverneur du Michigan a donc nommé, entre guillemets, un gestionnaire financier de crise, doté des pleins pouvoirs pour que les choses aillent encore plus vite, pour passer outre aux contrats avec les syndicats et aux procédures légales pour vendre les actifs de la ville, etc. Ces vampires veulent jusqu'à la dernière goutte de sang du corps de la classe ouvrière de Détroit. C'est un désastre annoncé pour la population laborieuse et les pauvres qui ne peuvent répondre autrement qu'en craquant l'allumette qui fera exploser ce baril de poudre. 8 avril 2013.